Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h17 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec l'éditorialiste du Figaro, Yvan Youfol. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Avec le fondateur du think tank libéral Génération Libre, Gaspard Koenig. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir.
Et le psychanalyste Gérard Miller. Et concurrent sur France 3, puisque vous signez un documentaire sur Dalida la semaine prochaine. Donc voilà, donc on est concurrent également sur France 3.
Lundi ?
Non, pas le lundi, mais globalement, vous savez, on n'aime pas trop partager l'antenne. Vous savez comment on est tous les uns les autres.
Moi, c'est
collègue sur France 3. Ouais. C'était une façon de vous faire de la pub, je ne pouvais pas en faire trop non plus. Donc voilà, vous comprenez Gérard. Merci d'être là. Donc, ça va être le blast. Traduction, un effet de souffle, confidence de Nicolas Sarkozy à ses proches, rapporté par Benjamin Sportouche du service politique de RTL au lendemain de l'annonce donc, de la publication de son livre « La France pour la vie », 270 pages, où l'ancien président affirme vouloir faire cet effort de vérité sur ses réussites et sur ses erreurs. Il sera donc dimanche au micro de Thierry de Mézières devant les caméras de 7 à 8. Alors ce livre Confession peut-il lui permettre de reprendre la tête dans la course à la présidentielle sur les réseaux sociaux? Benoît Gadret de LCI, bonsoir.
Bonsoir, eh bien Serge, je vous réponds très clairement, ça va être difficile, on n'en veut plus de Sarko. Et c'est vrai qu'on lit un peu moins de fans sur Twitter. Claude tout de même assure que depuis son retour en 2014, son action est désintéressée et sincère. Nicolas n'a qu'un seul but, redresser la France. Mais Charlotte a lu son message Facebook hier soir et souligne que Sarkozy se demande lui-même si ce n'est pas peut-être une mission impossible pour lui de rétablir la confiance. Aurait-il changé? Non, rassurez-vous, la modestie est de retour. Il confie aujourd'hui que ça va être le blast, ricane Gilles. C'est tout écrit en franglais, s'inquiète Stéphane. Il promet de dire toute la vérité, mais ne faudrait-il pas qu'il en réserve la primeur au juge, demande aussi Bastien. La France pour la vie, c'est le titre du livre, et le Qatar pour la bourse, propose l'humour de droite en sous-titre. Plus sérieusement, Martin estime que c'est beaucoup trop tard. C'était une analyse à faire dans les 6 mois après sa défaite. Si c'est vraiment un mea culpa, c'est une œuvre en 80 volumes, grince Jules. Le livre très personnel de Sarko nous apprendra sans doute qu'il a souffert, et appris, et changé. Ce n'est pas ça qu'il nous dit d'habitude, s'amuse Jean-Pierre. Ça sera pas assez pour un comeback. Il peut prendre sa retraite avec Hollande, tacle Georges. La poudre de perlimpinpin ne fait plus effet. On a un honneur, prévient Papillon. Pourquoi se casser à écrire un livre alors qu'il y a, paraît-il, des enregistrements audio très bien faits, s'étonne Noodle pour finir.
Benoît, sérieusement, vous avez pris que les méchants, c'est pas possible.
Mais je vous assure que c'est assez tendu. Oui,
ah oui, carrément. Alors, autour des micros dont on fait le monde, je vais poser d'abord la question à la cantonade. Est-ce qu'il y en a un qui défend Nicolas Sarkozy ce soir?
Je trouve extrêmement positif qu'ils choisissent d'écrire, qu'ils choisissent le papier pour développer ses idées. Et on voit bien quand même l'effet qu'a toujours dans ce pays le fait d'écrire un livre. Je parle sous le contrôle de notre ami Besson. Je trouve ça plutôt positif. Ce qui m'a...
Je pense que la littérature en sortira grandie, mais...
Ah, c'est une autre question. En tout cas, les livres, c'est comme les mauvais films au cinéma. Ils profitent aux bons, puisqu'ils font effectivement des entrées. Et la deuxième chose, c'est que vous avez remarqué où il est allé chercher la vérité. Il faut quand même le dire. Il est allé chercher la vérité au fond de lui. Je me demande d'ailleurs pourquoi il y a toujours cette idée que la vérité gît au fond de soi. Je ne suis pas du tout sûr que ce que Freud, par exemple, a inventé, c'est un inconscient des profondeurs. Mais il y a quand même cette idée qu'il faut plonger, qu'il faut une sorte de spéléologue de soi-même pour faire accoucher la vérité. Bon, moi, franchement, je vais lire ce livre.
On sent une forme d'ironie malgré tout.
Non.
Ah bon ?
Je dois avoir l'esprit mal placé. Je vais le lire parce que je pense que ce sera un objet plutôt réussi.
Alors, toujours sur la vérité, Philippe. Il dit que il va faire un effort de vérité. Donc on voit que pour lui, Nicolas Sarkozy, la vérité, c'est un effort. Ce n'est pas visiblement un geste naturel. Moi, je suis assez abasourdi par cette annonce, parce que faut-il que l'heure soit grave et qu'il soit désespéré pour publier un livre? Parce qu'en 2012, il expliquait que les livres politiques, c'était des ouvrages bâclés que personne ne lit, qu'il ne fallait surtout pas en écrire.
Il en avait fait un et il s'était vendu à 350 000 exemplaires.
Mais depuis, il n'en avait pas fait. Donc il estimait qu'il ne fallait plus en faire, que ça ne servait à rien. Bon. Par ailleurs, jusque-là, il avait plutôt un coup d'avance, c'est à ça qu'on le reconnaissait, Sarko. Là, il a plutôt des coups de retard, parce qu'il arrive après Juppé, après Fillon, et même après Copé. Donc, je parle des livres politiques, Gérard. Je m'en tiendrai là pour l'instant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant, il crée l'événement. Maintenant, on a plutôt tendance à penser qu'il le subit. Avant, il l'inventait. On a l'impression qu'il l'imite un peu. Là, c'est dommage. Bon. Par ailleurs, il nous explique qu'il va parler de ses erreurs. Alors, moi, j'en accepte l'augure, mais en même temps, j'ai noté qu'il n'était pas toujours très porté sur l'autocritique. Donc, ce qui va nous dire qu'il a changé. Sauf que le problème, c'est qu'il nous dit tous les ans qu'il a changé. Il y a un Sarko nouveau, comme il y a un Beaujolais nouveau. Donc, c'est vrai que c'est curieux. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est fichu d'avance, parce que soit il reconnaît effectivement des erreurs dans ce livre. Et évidemment, tous ses concurrents vont lui dire, bah, vous voyez bien que vous avez planté votre quinquennat, que ça ne sert à rien que vous vous représentiez parce que bah, vous avez quand même, vous n'avez pas été bon. Soit, effectivement, il n'en reconnaît pas suffisamment et on va dire, décidément, il ne change pas et il est très immodeste et il n'y a pas d'inventaire. Le problème aujourd'hui, c'est qui a envie d'écouter Nicolas Sarkozy ? Le problème, c'est qu'il ne séduit plus, il ne fait plus peur, il n'a plus d'idées neuves. En même temps, une fois que j'ai dit ça, je vous annonce que le livre...
C'est la même chose pour Hollande.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Je dis juste une chose. Rassurez-vous, le livre va marcher. Parce que je pense qu'effectivement, les curieux ont lâché. Et puis surtout, je pense qu'on va suggérer aimablement aux 250 000 adhérents des Républicains...
Vous avez vraiment l'esprit mal placé.
...ce livre-là. Et donc, je pense qu'il marchera. Et donc, je peux vous dire aussi la suite, c'est que Sarko dira, voyez, moi, mon livre, il se vend.
Yvan ? Oui, on verra bien. En effet, il faut qu'il rame, mais il n'est pas seul à ramer. Je pense que François Hollande également paye les mêmes irritations d'une France qui n'en peut plus de voir toujours les mêmes têtes, qui vont se représenter en 2017 et déjà en 2014. Donc là, il y a un vrai problème de démocratie naturellement à régler. Est-ce qu'il va réussir son pari ? Je n'en sais rien, mais je vois déjà en tout cas une incohérence dans sa communication, car j'ai cru comprendre qu'il avait annoncé il y a 2 ou 3 jours qu'il se mettait en apnée dans la France profonde, qu'il allait faire une cure de silence pour écouter comment vivent les gens, ce qui est une très bonne chose. Et là, je vois qu'il fait lancer les tambours et les grosses caisses pour annoncer ce bouquin. Donc je vois là déjà une première insincérité, ou en tout cas une contradiction que l'on voit souvent chez lui. Et je pense que l'obstacle le plus difficile pour lui va être justement de montrer si oui ou non il a bien compris à quel point les gens le sentaient insincère. C'est-à-dire que l'on voit bien qu'il veut prendre une revanche. Ça, c'est ses premiers pas dans son retour en politique l'ont montré. Mais on n'a pas vu qu'il avait des choses nouvelles à dire. Et donc il se force, en effet, à une autocritique qui est un art qu'il ne pratique guère.
Peu, oui.
C'est une autocritique qui est naturellement avec un son versant que l'on voit immédiatement, qui est de dire qu'il ne faut pas non plus qu'il prête trop la critique pour donner des arguments à ses adversaires. Donc il est là sur un fil du rasoir. Et moi je pense que la solution pour lui ne peut passer que par d'abord un véritable travail sur son honnêteté même, son honnêteté que je ne mets pas en doute moralement, mais son honnêteté intellectuelle, de dire vraiment ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a mal fait, et un vrai travail d'humilité également pour dire qu'il n'est certainement pas l'homme providentiel et que si vraiment il veut apporter quelque chose à la France, il va falloir qu'il le fasse avec tous ces Français aujourd'hui qui se sont détournés de la politique, qui forment cette société civile un peu insurrectionnelle, d'ailleurs, qui se fédèrent sur l'Internet, etc. Et je pense qu'il ne peut pas, ni lui d'ailleurs, ni d'autres, ni même Juppé, ni Hollande, ne peuvent arriver sans se mettre également maintenant en collaboration avec cette France.
Au-delà du mea culpa, tout à l'heure, Claude Guéant, donc proche lieutenant de Nicolas Sarkozy, disait qu'il y a une incompréhension qui s'est créée entre les Français et Nicolas Sarkozy. Et donc c'est l'occasion, finalement, de lever les malentendus. Donc il fait bien d'écrire pour essayer de lever cette incompréhension,
S'il va au bout, c'est de ces contradictions de l'époque. Et j'en vois une, en tout cas, j'aimerais bien qu'il l'aborde, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il avait à ce point méprisé la voix des Français en 2005 quand ils avaient refusé cette Constitution européenne pour la rétablir par un autre biais. Trois années plus tard.
Je me permets de mettre un bémol sur le diagnostic. Je pense qu'il n'y a pas d'incompréhension. Je pense que les Français ont très bien compris. Mais vraiment très bien.
Le rapport d'un homme et d'un peuple.
Gaspard Koenig.
Pour moi, le rapport d'un homme et d'un peuple et toute cette psychologisation de la politique, c'est le degré zéro, véritablement, de la démocratie.
Mais vous n'allez pas me casser mon divan ce soir avec Copé, quand même, non ?
Mais non, et d'ailleurs... bah, oui,
la psychologie de la vie politique, je prends ça directement Gaspard.
On parle constamment des uns des autres du feuilleton. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy était en politique au moment où Amour, gloire et beauté commençaient à faire son entrée sur nos écrans. Et finalement, les deux feuilletons vont parallèles. Mais je suis là ce soir pour vous annoncer une exclusivité, puisque j'ai le texte de la première page sous les yeux. Et que je vais vous en lire un extrait.
Ah, top, top, top.
Oh. Alors... Une restauration n'est possible.
C'est la réalité ou c'est... Attendez, je regarde.
Une restauration n'est possible qu'aux brefs instants de lassitude, quand les idées, les hommes et les faits s'accordent une trêve, quand l'essoufflement rompt l'assaut des générations montantes. Louis XVIII, lassé et lourd, avait perdu le goût des exils brusqués et des cours dérisoires. De la Révolution, il avait appris et retenu cette leçon, ce qui bouge trop meurt vite, et s'était enfermé dans l'étiquette, les usages râpés et les habitudes hiératiques d'antan. C'est pas mal, hein ?
Non, ça vient d'où, ça ?
Ça vient d'où, à votre avis ? Ça vient de Mitterrand. Je le disais, dans le coup d'État permanent. Et ça, c'est la première page du livre de Mitterrand. Et je ne veux pas faire le numéro « C'était mieux avant, le niveau baisse ».
Mais quand même.
Quand même. C'était vraiment écrit. On parle du fond. On attaque sur Louis XVIII. Là, c'est le post Facebook que je lis, c'est si ce livre a un sens, c'est que le moment était venu de la clarté. Ben, j'ai l'âge de la France, j'ai l'âge de tous les livres de la France que j'ai lus, j'ai l'âge du Moyen-Âge.
Non, mais dans la réalité, vous avez quel âge, Gaspard?
J'ai une réalité un peu plus superficielle, j'ai l'âge du Christ, 33 ans.
Ouais. Déjà nostalgique à 33 ans.
Écoutez, quand il dit donc il y a une différence gigantesque sur d'abord le fond, c'est-à-dire c'était des livres politiques qui parlaient du fond politique, qui parlaient pas des hommes politiques. Mmh. Mitterrand parlait pas de lui-même.
Mitterrand était un écrivain, puis vous n'avez pas lu le livre de Sarkozy.
Deuxièmement, il y a sur le fond et un peu par coïncidence, il parle de la Restauration. Et il dit la Restauration, donc quand Louis XVIII revient au pouvoir, puis après il parle de 46. Quand il dit la Restauration, c'est quand l'essoufflement rompt l'assaut des générations montantes. Et c'est exactement ça, le retour de Sarkozy. C'est cette restauration. Et ces générations montantes sont-elles si essoufflées, alors qu'on voit effectivement bruire en France, comme vous le disiez justement, ces nouvelles formes politiques qui vont, honnêtement, qui vont balayer cette forme de personnalisation du pouvoir.
Enfin, on n'y est pas encore.
Donc, vous allez voir.
Ce que je trouve quand même formidable, c'est que on est quand même un certain nombre à dire qu'il y en a marre des tweets en politique, il y en a marre des petites phrases. Là, vous avez des hommes politiques. Donc je ne peux pas dire que je partage l'idée, que ce soit Copé ou Sarkozy. Et déjà, on est en train de les déglinguer parce qu'ils font un bouquin. Moi, je suis désolé. Je trouve que c'est une bonne initiative que Sarkozy vient de prendre. Je sais bien qu'il n'a pas écrit seul, c'est le plus vraisemblable, mais qu'il y ait un bouquin de 270 pages pour nous expliquer après tout ce qu'il veut faire. Franchement, même si je n'ai l'intuition que je ne serais pas d'accord, je trouve qu'on pourrait un tout petit peu saluer ça.
On en dit encore un mot dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On fait donc le monde ce soir avec Yvan Rioufol, Philippe Besson, Gaspard Koenig et Gérard Miller à propos donc pour l'instant du livre de Nicolas Sarkozy, Avenir donc. Tout à l'heure, Gaspard Koenig nous expliquait qu'il en avait marre de la personnalisation de la politique et que ça devait être plutôt des idées que des hommes. Vous faites le même constat, Yvan Rioufol?
Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gaspard Koenig, mais en même temps, je ne faudrait pas qu'on retombe dans notre travers qui est de vouloir couper des têtes comme on a pu le faire précédemment. Je vous rappelle les erreurs que ça a pu donner. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, nous sommes en pénurie de personnalités politiques. C'est-à-dire que la crise de la politique est telle aujourd'hui que rien n'émerge, même pas de cette société civile qui, en effet, est en effervescence, mais qui n'a pas, en tout cas, à ma connaissance, qui n'a pas encore produit cet homme ou ce groupe d'hommes ou ce groupe d'idées qui pourrait prétendre, en tout cas, en 2017, être prêt à suppléer à toutes ces carences. Donc, je pense qu'il faut faire avec.
Malheureusement, de la présidentielle. Mais c'est
pardon.
C'est le travers de la présidentielle.
Oui, bien sûr. Mais on parle de cela pour l'instant. On est à cette échéance qui est beaucoup trop proche aujourd'hui pour se préparer sur autre chose.
Sauf que ces hommes existent peut-être et qui sont empêchés d'exister par leurs aînés qui les encombrent.
Je partage totalement ce diagnostic. Mais simplement, je pense qu'aujourd'hui que les hommes politiques devraient avoir cette intelligence de se dire qu'ils ne sont plus aujourd'hui les seuls représentants d'une société qui d'abord ne leur ressemble plus et ils ne cessent de leur dire et qu'ils doivent se mettre urgemment à l'écoute. C'est une banalité que de le dire, mais également de faire venir auprès d'eux, peut-être même de s'effacer pour laisser venir face devant eux toutes ces personnalités, toute cette société qui hurle et qui ne se fait pas entendre. Et je pense qu'il y a peut-être là, de la part de Sarkozy ou de Hollande ou de Juppé, une manière de se réconcilier avec cette opinion publique qui ne veut plus, qui ne se reconnaît plus dans la politique.
Oui, enfin, moi, je suis pas sensible à cette histoire, les vieux, les jeunes, parce que
je dis pas les vieux.
Mademoiselle Le Pen sont plus jeunes. Est-ce qu'elles ont là-dessus un quelconque avantage? La plus jeune, Marion. Enfin, franchement,
c'est pas une question d'âge. Alors, je me suis mal exprimé.
C'est une question de représentation et de
manière de pouvoir accéder à l'expression des idées qui ne sont pas représentées par des courants politiques qui, pour l'instant,
il y a précisément des initiatives.
Elle a peur de faire de la politique.
Précisément des initiatives aujourd'hui chez Arrivant pour tenter de faire émerger des personnalités nouvelles de la société civile. Alors que dans le contexte institutionnel français, c'est véritablement un défi gigantesque, notamment un site qui s'appelle laprimaire.org. qui sera fonctionnel en février et qui va lancer une primaire citoyenne où tous les citoyens peuvent se présenter avec 500 signatures de citoyens. Et ensuite, il y a un processus de sélection numérique.
Ce sera passionnant à suivre, bien sûr.
Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si on se retrouve avec des citoyens qui ont 3 ou 4 millions de likes, ils auront une légitimité.
Ça marcher, ça fera du buzz. La société du buzz que vous dénoncez d'une certaine manière, vous l'alimentez.
Non, pas du tout. Ce n'est pas seulement du buzz.
Vous en attendez quoi?
C'est de la démocratie directe.
Oui, mais sauf qu'une carrière En Espagne, vous avez dans les législatives de décembre 1994, vous avez deux partis qui ont émergé, Podemos et Ciudadanos. Ciudadanos et Podemos sont des mouvements qui ont été qui ont été instruits, qui ont été constitués par les réseaux, par l'Internet, par les réseaux sociaux. Ce sont des réseaux, des partis horizontaux, si je puis dire, qui cassent toutes les structures de la politique et qui vont faire de la politique à la place des politiques. On peut très bien imaginer, dans quelques années, peut-être pas l'année prochaine, mais que des mêmes formations prennent leur place dans le débat public français.
On verra bien, tant qu'ils ne prennent pas les places des journalistes. Faut-il réduire la durée de l'assurance chômage en France ? On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
Et à 19h37 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Gaspard Koenig, Gérard Miller, Philippe Besson, Yvan Rioufol. Écoutez cette petite phrase de François Hollande hier.
Je rappelle qu'en France, la durée d'indemnisation est la plus longue d'Europe.
Affirmation fausse, hein, c'est ce que vous avez entendu ce matin sur RTL. Cyprien Sini le pointait du doigt dans RTL Petit Matin. La France, avec 24 mois d'indemnisation pour les moins de 50 ans, est à égalité avec l'Espagne et le Danemark et arrive loin derrière les Pays-Bas à 38 mois. Mais une affirmation qui relance le débat alors que la Cour des comptes s'alarme. Notre régime d'assurance chômage est beaucoup trop généreux par rapport aux autres pays de l'OCDE. Alors faut-il réduire la durée maximum d'indemnisation chômage sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Pas franchement pour les internautes, j'en vois encore qui veulent achever les chômeurs, explose FD. Ah, c'est ça la cause du chômage, qu'on y reste trop longtemps, s'énerve aussi Domi. Bah oui, c'est bien connu, le chômage c'est la faute des chômeurs, Raï Gabillot. Ils vont bientôt les envoyer en Syrie ou les déchoir, ça débarrasse, grince Greg. Mira résume, donc pour solutionner le chômage, on veut réduire sa durée et faciliter le licenciement, comment dire ? Oui, bah j'en ai marre de bosser pour des assistés à vie, lâche Arnaud. On est couvert longtemps parce que les prélèvements sont en rapport aussi. Vous avez vu ce qu'on cotise, explique Talent. Mais enfin, il y a de plus en plus de chômeurs et de moins en moins de cotisants. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Il faut réduire, rappelle Mistofor. Enfin, quelqu'un en parle. Mais je trouve plus urgent de plafonner les montants. Moi, paysan, j'ai droit à rien. Alors, soupire Patrick, réduire les indemnes dans le temps, ça n'a un sens que si le marché de l'emploi offre des opportunités. Et ce n'est pas le cas actuellement, observe Pierre. Et j'ai décidé de rappeler pour finir que 56% des chômeurs vivent déjà sous le seuil de pauvreté. On creuse encore ?
Le très libéral Gaspard Koenig, qu'en pense-t-il ?
Moi d'abord, je trouve que... il est surtout question moins de la durée d'ailleurs que du montant des indemnités, puisque effectivement en France, elles peuvent aller jusqu'à 6200 euros. La moyenne européenne, c'est dans les 2000-2005. Et c'est très injuste parce que c'est très stressant ces deux ans pour ceux qui ont vraiment du mal à trouver du boulot. Et c'est insupportablement laxiste pour ceux qui en profitent. Et moi, je connais des gens qui étaient banquiers à Londres, qui viennent travailler une journée en France pour pouvoir remplir la case et qui ensuite font le tour du monde à 6000 euros par mois aux frais du contribuable en allant de temps en temps pointer à Pôle emploi et en expliquant que, vous comprenez, sur le marché des actions, c'est très tendu en ce moment. Donc, c'est évidemment un système qui ne marche pas. Mais cela dit, et par ailleurs qui génère de la dette, hein, 30 milliards, donc c'est un système qu'on fait payer à nos enfants, c'est classique de le dire, mais c'est vrai. Mais cela dit, je pense que le problème de ce système, c'est qu'il est déterminé selon des critères beaucoup trop généraux et beaucoup trop arbitraires. Tout le monde est à la même enseigne. Vous ne choisissez rien, vous ne choisissez pas combien vous cotisez, et vous ne choisissez pas combien vous allez recevoir, ni combien de temps. Tout ça est décidé quelque part, et vous êtes sujet à l'arbitraire des décisions politiques. Les avancées qui ont lieu en ce moment et qui sont intéressantes vont vers beaucoup plus d'autonomie, que chacun puisse cotiser dans des systèmes à points et puisse décider de prendre ce qu'on appellera même plus du chômage. On appellera du temps libre. Ça peut être du chômage, ça peut être du congé sabbatique, ça peut être de la formation, ça peut être des espèces de retraites que l'on prend à certains moments de sa vie. Et donc, de cette manière, on gérera soi-même son temps. Et ça, c'est le projet, et pour le coup lancé par le gouvernement, et pour le coup, je l'approuve, du compte personnel d'activité, qui est vraiment intéressant, où tous vos droits sociaux sont regroupés dans un compte, sont fongibles, et vous avez la maîtrise de votre temps. Donc, ce n'est plus quelque chose d'extérieur, une règle extérieure qui va vous dire c'est 2 ans, c'est 3 ans, etc. On dit en fonction des points que tu auras mis là-dedans, eh bien, tu vas pouvoir les tirer, si je puis dire, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des niveaux de rémunération que tu décideras toi-même. Et donc, ça sera également beaucoup moins humiliant. On ne sera plus au chômage, on n'ira plus pointer au chômage. On sera dans des périodes où on aura droit à du temps.
Bon, ce que vient de dire Gaspard me convainc que ce qui monte parfois de la société civile n'est vraiment pas plus encourageant que ce qui vient de la société politique. Parce que le fond de la question, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas de rentrer dans le détail tout à fait intéressant que vous proposez. C'est qu'une fois de plus, en étant une fois de plus, une fois de plus, et ça ne vous soulève pas le cœur, une fois de plus, on tape sur une certaine catégorie de la population. Moi, je suis désolé quand j'entends Hollande commettre une erreur aussi manifeste que celle de dire « regardez ». Dans les autres pays, c'est plus court. D'abord, je ne vois pas le problème. Ce n'est pas parce qu'on soigne moins bien les gens dans tel ou tel pays qu'il faudrait s'aligner sur ceux qui font moins bien que nous. Mais c'est quand même un vrai acte manqué, puisque c'est une erreur manifeste d'un président de la République. Et une fois de plus, on vise les chômeurs. Moi, je suis désolé, je ne connais pas comme vous, effectivement, des gens qui viennent banquer pour gagner, si j'ai bien compris, 6 000 euros
c'est
de
ça,
chômage. Moi, je connais les chômeurs que je connais, c'est tous des gens qui, effectivement, ont eu des petits salaires, qui cherchent du boulot, qui ont envie de travailler et qui n'y arrivent pas.
Mais c'est bien
et je suis désolé que tous les messages qui viennent de ce gouvernement me débectent profondément. Tous les messages, depuis quasiment qu'Hollande est au pouvoir, ce sont des messages contre les travailleurs, contre les retraites, contre les chômeurs. Enfin, il y a un moment, il faudrait
vous
quand même
pas
que ça
vous ne voulez pas la réduire, cette durée d'indemnisation.
Mais ce n'est pas la question. C'est que moi, j'entends le désir derrière la demande. Et j'entends comme désir encore un coup sur la tête des plus faibles dans ce pays. Je suis désolé, moi qui ai voté pour Hollande, je me demande à quel moment on aura de temps en temps, de la part de ce gouvernement, un peu, je ne sais pas s'il faut dire de compassion ou simplement d'intérêt pour les plus faibles.
Yvan Ruffol ?
Nous l'avons tous, cette compassion, mais cette manière d'indemniser a deux effets pervers. Tout d'abord, elle n'incite pas, en effet, ceux qui sont très bien indemnisés à rechercher du travail. Et ensuite, elle fait porter la charge des finances à ceux qui ne sont pas non plus des nantis. On a appris aujourd'hui dans un journal qu'un certain nombre de départements de la grande couronne parisienne étaient en faillite et s'apprêtaient à multiplier leurs impôts afin de pouvoir honorer les prestations sociales et singulièrement le RMI, je crois. Et donc, il faut quand même se projeter un petit peu vers ceux également qui sont amenés toujours à payer davantage et se demander si vraiment il est utile et si ce système est aussi sain que cela qui consiste à vouloir vivre ou dépendre d'autrui, car c'est bien de cela dont il s'agit. Donc je pense en effet,
ils ont cotisé les chômeurs, c'est comme
non, mais tout le monde cotise et ils peuvent très bien cotiser sur des caisses en effet qui leur permettront d'être indemnisés sans que ce soit sur le voisin qui paye. Et donc je pense qu'il faut, de mon point de vue, repenser totalement ce qu'est aujourd'hui ce modèle social français, qui était hérité de Vichy et de 1945, ce modèle-là ne fonctionne plus parce que nous n'avons plus les moyens financiers. Notre population n'est plus aussi homogène non plus qu'elle ne l'était auparavant. Il y a moins de solidarité naturelle qu'il ne pouvait y en avoir en 1945. Et donc, il faut, en effet, je ne veux pas reprendre ce qui a été dit par Gaspard Koenig, qu'il faut repenser à travers d'autres modalités, des assurances, des privatisations, tout ce que vous voulez, ce système qui ne fonctionne plus, tout simplement.
Moi, je suis très gêné par ce débat. Je veux dire par là que je rejoins absolument Gérard sur l'idée suivante. Quand une société va mal, quand une économie va mal, est-ce que la priorité, c'est de s'attaquer aux plus faibles ? Quand on pose la question de la durée d'indemnisation qu'il faudrait réduire, donc ça signifie, veut-on créer de nouveaux pauvres ? Est-ce que c'est ça qu'on veut, puisque c'est ça la conséquence de cette situation-là. Donc, est-ce qu'on veut d'une société qui crée de nouveaux pauvres ? On peut le vouloir. Moi, personnellement, cette société me fait horreur, mais j'imagine que certains peuvent l'appeler de leur vœu.
C'est trop grave. Personne ne veut de nouveaux pauvres.
C'est la réalité. Par ailleurs, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Par ailleurs, j'entends le chômeur à 6200 euros. Sauf que Vous savez combien la moitié des demandeurs d'emploi perçoivent moins de 500 euros. La moitié des demandeurs d'emploi en France perçoivent moins de 500 euros.
Les trois quarts
des chômeurs qui, eux, perçoivent moins de 1000 euros. Est-ce que cela, on peut s'intéresser à eux ? Et par ailleurs, est-ce que derrière, il y a cette idée absolument atroce qui est que les gens qui sont au chômage choisiraient d'y être. Les gens qui sont au chômage ne choisissent pas d'y être. Ils sont victimes du chômage, d'accord ? Ils préféreraient être au travail. Donc arrêtons de les stigmatiser. Et par ailleurs, moi, je trouve ça formidable qu'on s'intéresse aux 30 milliards de déficit de la CEDIC. Et effectivement,
non,
il faut
traiter... Non, 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 pas du tout. Un chiffre à 30 milliards, vous n'en avez rien à faire. On va rajouter une petite question. Dizaine
mais
de
bien
milliards.
Sûr. Mais voilà, alors, Gaspard,
on va retirer
Gaspard,
un peu de dette et puis d'impression par la
BCE. Bien sûr, Gaspard. Voilà. Eh bien,
et un jour,
à ce moment-là, attaquez-vous.
La France sera en faillite. Là, ça sera zéro pour tout le monde, cher ami.
Attaquez-vous aux 80 milliards de fraude fiscale et sociale des entreprises. Cela, je ne vous entends jamais en parler.
Bien sûr que si j'en parle, vous dites absolument n'importe quoi. Vous ne m'écoutez pas. S'il y a bien quelque chose.
Eh bien, il faut aller chercher les milliards là où ils sont.
S'il y a bien quelque chose que nous dénonçons, cher monsieur,
très bien.
C'est le capitalisme de connivence.
Je préfère qu'on aille les chercher plutôt qu'aller prendre des euros dans la poche des chômeurs.
Et arrêtez de faire croire aux gens que nous vivons dans une société libérale. Nous vivons dans le capitalisme de connivence où les insiders prennent toujours plus, que ce soit pour le chômage comme pour le reste.
Et les insiders ont toujours plus et les chômeurs toujours moins. Oui, ça c'est vrai.
Justement, le système de compte personnel d'activité, j'aimerais bien vous travailler un peu vos dossiers, que nous proposons, permet à chacun de choisir la gestion gestion de son temps. Donc arrêtez de nous faire porter des thèses que nous ne portons pas et regardez un peu des solutions innovantes que nous proposons.
On a entendu, on va parler d'un dernier sujet dans un instant, si vous voulez bien, on va faire redescendre la pression. La garde bitéroise de Robert Ménard suspendue. Je suis pas sûr qu'on fasse redescendre la pression d'ailleurs avec ce sujet. On en débat dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchier.
Et on refait le monde donc ce soir avec Yvan Rioufol, Gaspard Koenig, Gérard Miller et Philippe Besson. La garde bitéroise perd face à la justice. Ce groupe de volontaires créé par Robert Ménard était censé assurer la sécurité des habitants de Béziers. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Montpellier l'a suspendu à la suite d'un recours de la préfecture. Robert Ménard dénonce une décision politique. Alors cette garde bitéroise, milice insupportable ou patrouille citoyenne légitime sur les réseaux sociaux, Benoît?
Allez Ménard, remballe ta milice, mets ça sous ton béret, ricane Birou. Je suis ravi que la justice ait enfin stoppé ce Ménard qui croyait que tout lui était permis, assure Brice plus sérieusement, mais quelques bitérois sont amers. Didier salue la force et le courage de son maire. Le tribunal sera moralement responsable de tout ce qui aurait pu être évité. C'est pas malin, prévient Gabriel. La louve gauloise assure même que ça va faire comme la police municipale. Pas l'armée. Vous critiquez et après les autres villes vont suivre. À méditer. Malik, lui, regrette comme beaucoup qu'en gros Ménard s'est offert un gros coup de pub dans tous les médias pour un truc que tous savaient impossible dès le départ. Éric conclut, puisque la garde bitéroise est illégale, Robert Ménard va se recentrer sur son projet de bombe atomique bitéroise.
Yvan Rioufol, cette garde bitéroise, donc suspendue par la décision de la préfecture, vous regrettez?
La garde bitéroise n'est pas suspendue. Je crois que c'est la décision.
C'est la décision
du conseil municipal qui est suspendue. La justice se prononcera ensuite.
Vous avez raison.
Et la question qui est posée est de savoir quels sont les moyens que l'on donne à un maire pour assurer la sécurité publique en temps d'état d'urgence. Donc la question n'est pas anodine. Et on peut penser en effet que cette garde bitéroise, pourquoi pas, pouvait être une solution. D'ailleurs, j'observe que quand des groupes musulmans se sont proposés le 25 décembre d'assurer la sécurité des églises. Les préfets n'ont rien trouvé à redire à cette même mobilisation d'initiatives privées pour suppléer des carences de l'État, puisque l'État ne pouvait pas assurer la sécurité des églises. Là, en l'occurrence, il semble que l'État ne puisse pas assurer la sécurité des bitérois. Et donc, je ne vois pas, rien ne me choque pour l'instant de ce qu'a pu faire Robert Ménard. J'attends de savoir ce que la justice va en penser. Ce que je vois surtout, et j'agrée dans ce sens sur l'argument de Ménard lui-même, de dire que c'est une décision politique, c'est qu'on essaye de faire passer Ménard pour le Donald Trump français, pour un fasciste ou je ne sais quoi. Non, c'est un républicain qui est naturellement à droite, qui lutte contre le fascisme, très précisément, au contraire, et qui, pour l'instant, est la tête de Turc de toute cette gauche. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de voir qu'à chaque fois qu'il prend une initiative, ce serait une initiative erronée.
Bon, déjà, je trouve positif que vous reconnaissiez que Trump est un fasciste. Je ne savais pas que vous iriez jusque-là. Alors, je me permets juste de faire remarquer par rapport à la question posée que les milices, on dit milices ou patrouilles citoyennes, mais les milices sont interdites en France, les patrouilles citoyennes aussi. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, que la sécurité, au-delà de ce qu'on appelle les agents de sécurité, qui visent effectivement à l'entrée des magasins, des hôtels ou d'un certain nombre de lieux publics à regarder ce qu'il y a dans votre sac, ce qui est très ciblé, sinon, c'est un métier, la sécurité. C'est des professionnels, c'est des gens un tant soit peu formés. Alors, je sais bien qu'ils ne sont pas suffisamment formés, peut-être, dans la police.
Quand Badélis propose une garde civile, c'est pas plus formé que les autres.
Non, écoutez,
c'est la même chose.
Il y a, pour l'instant, nous sommes en France, avec un certain système qui fait que ceux qui nous assurent notre sécurité, bien ou mal, en général plutôt bien, manifestement ces derniers temps quand même, il y a eu quelques défaillances, ce sont des professionnels. Je trouve incroyable, effectivement, que Ménard se serve de Béziers comme d'un laboratoire et qu'à chaque fois, ils nous sortent des idées en sachant très bien que plusieurs seront refusées, comme l'histoire des fichiers, comme l'histoire maintenant de cette milice ou de cette patrouille. Je trouve terrifiant que quelqu'un à un niveau quand même aussi important que la mairie, puisse se servir de son poste pour faire expérimentation sur genre humain. C'est en général condamné, ça.
N'est-ce pas?
Oui, alors moi d'abord, je rappelle que cette milice n'était pas censée assurer l'ordre. C'est-à-dire que c'était des bénévoles chargés d'assurer des gardes statiques devant les bâtiments publics et devant alerter les forces de l'ordre en cas de trouble à l'ordre public. Donc il ne s'agissait pas d'avoir des gens armés qui assurent leur propre sécurité. Indépendamment de Béziers, de la personnalité de Robert Ménard, qui effectivement n'est guère agréable à défendre, je trouve que l'idée que des citoyens puissent s'auto-organiser pour assurer, là il ne s'agit pas vraiment de sécurité, mais il s'agit de la surveillance, n'est pas quelque chose d'absurde, que d'ailleurs la garde nationale...
Vous n'y voyez pas un danger ?
il y a, bah, il y a des dangers comme pour tout. Il y a aussi des dangers, si vous voulez, quand l'État abandonne ses missions régaliennes et quand la sécurité n'est pas assurée. D'ailleurs, je trouve assez incroyable que l'ordonnance que j'ai lue du juge explique que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives, l'État a le devoir d'assurer la sécurité. Oui, mais quand l'État n'assure mal ou n'assure peu la sécurité, quand
mais
du moins les gens ont cette impression,
ah, c'est l'impression qui compte.
Je ne sais pas comment ça se passe. Je vais être franc avec vous. Je ne sais pas comment ça se passe à Béziers. S'il y a des problèmes de sécurité à Béziers, que des gens puissent signaler des problèmes, je ne trouve pas ça complètement absurde. Et enfin, je dirais que les gardes, tout à fait, et que les gardes nationales avaient été fondées par les révolutionnaires et avaient été abolies en 71 parce qu'elles étaient trop à gauche. Elles étaient républicaines. Elles étaient séditieuses, elles étaient révoltées, elles étaient communardes, les gardes nationales. Et c'est pour ça qu'on a nationalisé la sécurité en France. C'était contre les communards. Donc il faudrait quand même se rappeler d'où ça vient. Et de manière générale, je trouve que tout ce qui est auto-organisé au niveau local est quand même toujours porteur d'intérêt ou de curiosité.
Moi, je suis très, très Philippe favorable hein, au maintien de l'ordre, à la surveillance des bâtiments publics. Je trouve que ça exige un grand professionnalisme. Et puisque ça exige un grand professionnalisme, je pense qu'il faut que ça soit confié à des professionnels qui sont formés, qui sont assermentés et qui sont neutres. Et pas à des citoyens dont je ne sais pas sur quels critères ils seraient recrutés et dont je ne sais pas non plus comment leur responsabilité serait engagée si jamais se produisait une bavure. La deuxième chose, c'est que
ils
si monsieur...
Pas,
si
ils
monsieur,
pas
oui, mais enfin, et s'il tabasse, hein, s'il voit quelqu'un qui décide
pas,
de tabasser...
Oh, enfin,
vous ne voyez pas de risque de dérapage, aucun.
Il y a un risque, il faut que ça soit cadré, ce genre de choses.
Oui, mais enfin, le problème de ce genre de choses-là, c'est qu'on ne cadre pas parce qu'il n'y a pas de cadre légal. La deuxième chose,
la sécurité.
Oui, mais justement, si M. Ménard veut renforcer la sécurité dans sa ville, ce que je peux tout à fait accepter, il a une façon extrêmement simple de le faire, c'est de recruter des policiers municipaux. Et pour ce faire, il a simplement à augmenter les impôts de sa ville. Donc il n'a qu'à dire au bon biterrois.
Exactement.
Eh bien, bien sûr, il n'a qu'à dire au bon biterrois, messieurs, mesdames, vous vous sentez en insécurité, la fameuse impression ou sensation d'insécurité, vous voulez plus de sécurité, on va
donc
vous
augmentons les impôts.
Vous verrez que les gens ne voudront pas augmenter leurs impôts et que tout d'un coup, l'insécurité ne sera pas le même problème. La seule chose, c'est que Robert Ménard, il s'exonère de sa propre responsabilité, tout simplement en créant une polémique artificielle. Il savait très bien qu'il serait toqué et qu'il essaie simplement de dire c'est la justice, vous voyez,
qui est aux ordres du pouvoir, qui m'a empêché. Je vois que Robert Ménard est accablé par tous les commentateurs
parisiens. Parce que sa ville fait la polémique tout le temps.
Et je vois qu'il est soutenu par ses habitants. Donc moi, ça m'importe davantage que nos commentaires.
Merci à tous les quatre. Merci pour vos commentaires, en tout cas, puisque moi, il m'importait vos commentaires. Gérard Miller, Gaspard Coding, Philippe Besson, Yvan Rioufol. Dans un instant, le flash de 20h sur RTL avec Julien Cellier.